visage de l'église locale.
Commençons ce magazine avec le père Florent Ungpounou, curé des ensembles paroissiaux de Saint-Gaudens, Aspet et Salis du Salat. Père Florent, bonjour.
Bonjour Eric.
C'est une nouvelle année pastorale qui débute en ce mois de septembre, dans une dynamique de rencontres, de transformation, de communion et de mission.
Oui, effectivement, voilà, ça serait d'abord une découverte a priori, parce que notre rencontre pastorale est pour le 9 septembre, où nous allons dévoiler le projet pastoral. Après avoir réfléchi et voilà, travaillé sur la rencontre source de transformation, nous voulons cette fois-ci entamer la rencontre par le Christ pour établir, pour rester en communion. Donc c'est une continuité du projet pastoral, d'abord établi sur 20 ans, c'est-à-dire 2017-2037. Ce n'est pas que je vais rester pendant 20 ans, mais c'est un dynamisme pastoral, une vision pastorale sur 20 ans que nous essayons de décliner à chaque instant. Donc cette année, aux sources de la rencontre et de la transformation, va naître la communion. Communion comme voilà, moment clé de la communauté, de la vie communautaire et de la fraternité. Donc voilà, rencontré par le Christ et rester, demeurer en communion. Voilà, donc nous sommes rencontrés par le Christ d'abord. Donc je peux dire que l'année passée, nous avons été rencontrés, transformés par le Christ. Mais pour quel but ? Pour demeurer en communion. Donc, on va développer cette année ce nouveau dynamisme qui va aider chacun de nous à faire plus communion, plus communauté et plus fraternité.
Alors, en ce mois de septembre, c'est l'époque des inscriptions pour l'éveil à la foi, le caté et l'aumônerie. Pour cela, une date à noter hein, dans nos agendas, samedi 12 septembre, donc c'est ce samedi.
Oui, justement, voilà, dans tous nos ensembles paroissiaux, que ce soit Aspet, Salis et Aspet, voilà, les portes sont ouvertes pour accueillir les enfants, pour les inscriptions à la catéchèse et pourquoi pas aussi à l'aumônerie. Et bon, c'est le moment où tout le monde maintenant, voilà, se lève et s'adhère à cette inscription pour que nous puissions aussi travailler avec nos enfants, nos jeunes qui cherchent à la recherche de Dieu, à la rencontre avec Dieu pour nourrir leur vie spirituelle, car nous n'avons que cet appui qui nous aide non seulement à nous transformer, mais à réaliser en plénitude notre vision, notre projet de vie.
À la fin de ce mois de septembre, le pape Léon XIV vient en France, entre autres à Lourdes. Alors tout est prêt, tout est calé pour le dimanche 27 septembre pour que les paroissiennes et paroissiens aillent depuis le Comminges à Lourdes.
Oui, justement, nos ensembles paroissiaux sont bien organisés. Justement, nous avons quand même 4 autobus, autocars qui partent à Lourdes. Bon, les inscriptions sont terminées d'abord sur le site officiel. Au niveau de la paroisse, les inscriptions se sont terminées. Nous avons peut-être 5 places encore libres. Et voilà, nous invitons ceux qui sont en état de vite s'adhérer à ça parce que voilà, il faut s'organiser sur le plan logistique aussi. Donc, cette rencontre, c'est une opportunité pour nous tous, pour la France d'ailleurs et pour nos ensembles paroissiaux et notre diocèse. Donc nous cheminons avec le diocèse de Toulouse. Donc nous serons accompagnés, unis avec le diocèse de Toulouse pour vivre cet événement avec les jeunes, les familles, les enfants, etc. Donc l'invitation à tous d'abord est de prier pour que cette rencontre avec le pape soit une rencontre fructueuse pour nous tous, une élévation spirituelle dans le sens que, voilà, que nous puissions saisir cette opportunité pour vivre en pleine communion avec l'Église, avec le pape et avec Dieu, et nourrir notre vie dans le quotidien avec son enseignement, etc. Et puis pour que nous puissions aussi entre nous réaliser ce voyage, c'est-à-dire quitter Saint-Gaudens, Aspet, Salis pour aller à Lourdes, c'est marcher ensemble, c'est marcher vers l'altérité, c'est marcher vers quelque chose, un but qui va nous émerveiller et va nous donner, nous orienter pour donner un sens à notre vie spirituelle et à notre vie chrétienne.
Voyons à présent, Père Florent, les horaires des messes pour ce week-end des 12 et 13 septembre.
Oui, en ce qui concerne, voilà, le samedi 12 septembre, nous avons la messe matin de défunt à Salis du Salat à 9h30. Et puis, nous avons la messe anticipée à 18h à Mogaya de Salis. En ce qui concerne, il y a aussi justement la messe à Cassagne à 18h. Donc, que ce soit à Cassagne, que ce soit à Mogaya de Salis, c'est C'est les fêtes des villages, donc fêtes des villages de Kassagne et de Mongaya. Donc nous avons deux messes anticipées dans la zone de Salis du Salat. Et puis en ce qui concerne le dimanche 13, nous avons la messe aux heures habituelles, au lieu habituel, c'est-à-dire 9h à Aspect, 10h30 à la collège de Saint-Gaudens et à Salis du Salat.
Merci Père Florent.
Merci à Dichat.
Les visages de l'église locale.
Mes chers amis de Radio Présence Pyrénées, bonjour. Au microphone, c'est Père Laurentiu, vicaire sur l'ensemble pastoral Notre-Dame de Coteau. Nous allons continuer nos méditations dominicales et aujourd'hui, je vais vous faire la méditation. On va méditer ensemble sur l'évangile de ce 24e dimanche ordinaire le 13 septembre 2026. Je vous laisse le choix de lire vous-même l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche-là, car étant un peu long, je ne veux pas m'attarder sur la lecture. Mais il y a une phrase dans l'évangile qui nous donne beaucoup à méditer. C'est cette belle phrase du Christ qui nous dit « Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Chers amis, ceux qui pardonnent sont des êtres blessés, très souvent, et blessés au plus intime d'eux-mêmes. Pendant longtemps, peut-être, ils ont dit qu'ils ne pourront jamais pardonner aux autres. Un jour, après bien des tempêtes intérieures, ils sont arrivés à pardonner, ils ont pu pardonner. Ils ne veulent plus du mal à ceux qui leur ont fait du mal. Ils arrêtent à eux-mêmes la violence subie. Ils ont fait, dans leur acte, en tant que tel, plus que donner. Ils ont pardonné. Pardonner, mes chers amis, avant tout ne veut pas dire oublier. On peut pardonner et continuer de souffrir en son cœur. Beaucoup croient qu'ils n'ont pas pardonné parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver la paix intérieure. Et d'une manière ou d'une autre, c'est vrai. Mais le pardon rayonnera un jour jusque dans la sensibilité meurtrie de notre cœur. Mais il y a d'abord, dans le pardon, un acte volontaire. Souhaiter du bien, et peut-être même en faire, à ceux qui nous ont fait tant souffrir. Comme le Père qui fait lever soleil sur les justes et les méchants, nous sommes pardonner à bien sûr regarder l'acte de notre Seigneur. Pardonner, n'oublions pas, c'est guérir, éteindre la rancune par la bonté, arrêter en soi la contagion du mal. Pardonner, c'est libérer l'avenir alors que le passé nous enferme. Pardonner, c'est l'acte le plus humain, le plus surhumain même, qu'il soit donné d'accomplir. Toujours, regardons le Christ. Par 70 fois, cette fois, le Christ ouvre le pardon sans limite. Et là, s'installe un climat neuf dans les relations entre les personnes, entre les peuples. C'est en parlant de l'amour des ennemis qu'il avait dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste ». Immense invitation, responsabilité vers une humanité divine. Oui, chers amis, pardonner pour être pardonné. Tel est, en résumé, l'enseignement du Christ dans l'évangile de ce dimanche. Cette exigence peut paraître coûteuse, certes, elle l'est d'une certaine manière, mais elle suppose en effet que nous accueillions l'autre de tout notre cœur, en dépit de la blessure qu'il a pu nous infliger. Mais cette exigence est aussi une grâce de la part du Seigneur, car elle libère de la rancune et des souffrances que nourrissent le ressentiment et la haine. Pardonner, en effet, ce n'est pas seulement relever son frère ou sa sœur, c'est encore le laisser guérir par Dieu, touché par l'amour. L'Esprit-Saint prends soin du cœur qui pardonne. Il y déploie la puissance de ses dons, le courage, la force, la paix, la joie. Il lui donne de vivre de l'amour même du Christ. Pourquoi cela? Parce que l'offense subie ou celle que nous infligeons aux autres n'est pas seulement la nôtre. Peut-être, même n'est-elle pas d'abord la nôtre, elle est une blessure qui touche directement le Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même. En pardonnant à ceux qui nous ont blessés, nous nous laissons traverser par la puissance réconciliatrice de la croix et devenons disciples de celui qui nous rappelle et qui nous appelle à nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Or, c'est le Christ lui-même qui a vécu ce pardon, qui a donné ce pardon et qui ne cesse de nous le donner. N'oublions pas qu'il est mort et ressuscité pour nous. Il n'a posé de limites à son amour. Il ne nous a pas pardonné jusqu'à un certain point seulement, mais totalement, afin de pouvoir être réconciliés avec Dieu son Père. Alors, pour terminer notre méditation, à notre tour, lorsque nous pardonnons de tout notre cœur, nous participons du même amour, vivant et mourant, non pas pour nous-mêmes, mais pour nos frères et sœurs, c'est-à-dire pour le Seigneur auquel nous appartenons. Amen.
À la recherche de l'essentiel, Jean-Michel Castaing.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous parlerai aujourd'hui de la solitude spirituelle. Je me trouvais un jour dans la rue d'une grande ville lorsque soudain, un jeune homme devant moi, marchant seul, s'arrêta subitement et consulta fébrilement son smartphone. Il venait de recevoir une notification. De ma place, il ne m'était pas possible de discerner l'objet du message qui avait stimulé son attention. Cependant, la rapidité avec laquelle il avait répondu à la sollicitation de son portable trahissait chez lui un manque que je ne pus définir sur le moment. Soudain, il me revint à l'esprit la parole du Christ sur les foules sans berger. À la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient là et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Effectivement, ce jeune avait suscité chez moi la même compassion que celle du Christ à la vue des foules de Palestine. Je n'avais pas saisi les ressorts de cette compassion tout de suite. Maintenant, en me remémorant les paroles de Jésus, je comprenais ce que signifiait le réflexe instantané du jeune homme face à la sollicitation de son smartphone. Il était perdu, seul au milieu de cette foule, et cette solitude s'étendait à toute sa vie spirituelle, ou tout au moins à ce qui en tenait lieu. Comme tant d'autres personnes de son âge, il était ballotté au gré des aléas de l'existence, sans but précis et dans un tel état de déréliction que la moindre notification de son portable lui paraissait une bouée de sauvetage à laquelle il put se raccrocher. Des brebis sans berger. Et si l'état spirituel de nos contemporains était le même que celui des foules que croisa le Christ il y a 2000 ans. Car si notre jeunesse sursaute d'impatience et de fébrilité à la moindre notification de son portable, n'est-ce pas le signe qu'elle est en attente de quelque chose ou de quelqu'un ? Toute la Bible est le récit de l'attente d'un sauveur par le peuple de l'Alliance. Or, l'Ancien Testament, loin d'être caduque, continue à nourrir notre vie spirituelle, même chez les chrétiens, parce qu'il parle de la condition humaine. Ce qui signifie que les hommes sont en attente d'un Messie. Certes, les chrétiens l'ont trouvé en la personne de Jésus-Christ. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Et les disciples de Jésus continuent eux aussi à prier que le Christ vienne dans leur cœur. La condition du peuple de la Bible est toujours celle de la majorité des hommes. Si la plupart n'en ont pas conscience, cela n'enlève rien toutefois à la réalité de cet état de fait spirituel. L'attente du Messie n'est pas moins prégnante parce qu'elle reste inconsciente. Malgré son jeune âge, ce jeune homme dans la rue me fit penser ultérieurement aux personnes âgées qui ne reçoivent que de rares visites chez elles ou dans les EHPAD et qui manifestent leur joie lorsqu'une connaissance se déplace pour venir prendre leurs nouvelles ou tout simplement partager un moment de convivialité avec elles. À l'instar de nos anciens, reclus chez eux ou dans les maisons de retraite, ce jeune attendait lui aussi inconsciemment une visite. Certes, jamais la notification de son smartphone ne serait en mesure de combler son attente. Cependant, la célérité avec laquelle il avait extirpé son portable de sa poche trahissait chez lui le désir que quelqu'un vienne lui rendre visite. Nous, chrétiens, connaissons l'identité de celui qui, ami des hommes et tout-puissant, ne demande pas mieux que de venir faire sa demeure dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Aussi nous incombe-t-il de dire à ces foules sans berger, dérivant vers des rivages inconnus, que Jésus frappe sans relâche à leurs portes pour venir leur tenir compagnie, étancher leur soif et les mener à la joie qui ne passe pas. Une joie, une présence, sans commune mesure avec les futiles et éphémères sollicitations de leur smartphone.
Présence. Les visages de l'église locale.